Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Frédérics. Si les chiffres du chômage restent plus que jamais les indicateurs les plus observés de l'actualité économique, il est une autre donnée dont les variations sont capables de vous faire basculer dans l'optimisme le plus béat ou le pessimisme le plus sombre, selon qu'elle est orientée à la hausse ou à la baisse, la consommation des ménages. Youpi, fin 2013, celle-ci a connu un net rebond en France, c'est ce que nous apprenait l'INSEE il y a quelques jours. Avec une progression de 0,5% au dernier trimestre, la consommation a retrouvé un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis début 2011. Mais voici qu'une douche froide nous arrive aussitôt de Bruxelles. Décembre, explique une dépêche AFP, a été un mauvais mois pour les ventes au détail dans la zone euro, augmentant d'autant les risques de déflation. Alors en général, l'analyse n'est guère poussée plus loin. La consommation augmente, c'est bon pour l'économie. Elle baisse, c'est que tout continue d'aller mal. Qu'on consomme durable, équitable, made in France, l'important c'est de consommer. Ce soir, nous avons eu envie d'exhumer de vieux slogans, ceux de mai 68, pour voir s'ils avaient encore une pertinence. Que clamait-on à l'époque ? Consommez plus, vous vivrez moins. Êtes-vous des consommateurs ou bien des participants ? Alors que sont devenus ces mots d'ordre très politiques ? Qui veut encore la peau de la société de consommation ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter ce soir. Dany Robert Dufour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Vous avez publié en 2012 chez De Noël « Il était une fois le dernier homme ». Et on peut trouver votre « Divin marché », titre d'un de vos ouvrages de référence, publié en 2007, mais disponible en folio dans la collection, dans la catégorie « Essai ». Pour discuter avec vous ce soir, Benoît Elbrun, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de marketing à l'ESCP Europe, qui est une école de commerce, consultant en stratégie de marque. Vous avez écrit plusieurs « Que sais-je » consacrés au logo, à la marque, au packaging. Et on vous doit, c'était en 2013, je crois, chez Nathan. Consomme pour Noël, donc il n'y a pas très longtemps. Je consomme, donc je suis. C'est écrit par vous et c'est illustré par Quentin Vijoux. Notre troisième invité, Olivier Assouli, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'Institut français de la mode. Vous avez publié, vous, chez Actes Sud, c'était l'an dernier également, mais il y a quelques semaines, on va dire. L'organisation criminelle de la faim. Vous aviez également signé le capitalisme esthétique, essai sur l'industrialisation du goût aux éditions du CERF en 2008. Alors, se poser la question ce soir de savoir si la critique de la société de consommation est encore portée aujourd'hui, ça revient aussi à s'interroger sur le statut de la consommation de nos jours. Est-ce que vous diriez que plus que jamais, parce que nous sommes en temps de crise, la consommation est une finalité que rien ne dépasse ? Dany Robert Dufour.
Eh bien, si c'est ça, c'est justement le problème. Si c'est une finalité que rien ne dépasse, je crois que nous avons quelques soucis à nous faire parce que la consommation est liée à un modèle qui est un modèle productiviste. Et le développement infini de ce modèle risque de nous poser quelques problèmes puisqu'il suppose l'exploitation de toutes parcelles exploitables du monde et qui peuvent rapporter quelques profits.
Vous dites si c'est ça, mais ça veut dire que vous avez l'impression que ça n'est pas tout à fait ça ?
J'espère que ce n'est pas tout à fait ça. Je crois que, à côté de, disons, l'enthousiasme pour le modèle consommatoire, il y a un certain nombre de questions qui perdurent, notamment celles qui sont liées à ce que ce modèle pourrait générer comme souffrance. Alors ça va peut-être vous étonner que je parle de souffrance quand on parle de consommation, mais on sait très bien que la consommation génère aussi des modèles d'addiction à la consommation, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais assez. On est content sur le coup quand on a quelque chose, mais ensuite il faut encore autre chose, et donc c'est sans arrêt plus qu'il faut.
Alors, s'il n'y a pas de satiété, ça nous pousse peut-être à faire le constat que la consommation reste une valeur absolument cardinale, Benoît Elbrun. Je ne sais pas si vous allez être, vous, du côté alors de la crainte ou plutôt de celui du constat. En tout cas, comment est-ce que vous répondriez à cette question ?
Moi, je suis plutôt sur le versant du constat, en rappelant qu'effectivement, l'explication dominante de l'émergence de la société de consommation, c'est le modèle productionniste, tel qu'il vient d'être évoqué par Denis Robert Dufour. Mais il y a un autre modèle qui est intéressant, qui est évoqué par un sociologue anglais qui s'appelle Colin Campbell, qui est sur le lien entre le romantisme et l'émergence au XVIIIe siècle de la société de consommation, au sens où l'homme romantique est celui qui recherche l'inattendu, l'excitation sensorielle, la nouveauté. Donc la société de consommation, finalement, elle se structure autour d'un projet démocratique fondé sur la possibilité d'un choix, c'est-à-dire je peux choisir, et sur une fiction de liberté, mais qui reste une fiction, puisque comme on l'a montré, notamment quelqu'un qui s'appelle Barry Schwartz, un livre qui s'appelle The Paradox of Choice, choisir, en fait, ça induit notamment une souffrance, parce que quand il y a trop de choix, bah, finalement, je ne sais pas quoi choisir, et donc du coup, ça crée de l'insatisfaction.
Olivier Soyi.
Oui, moi j'ai été frappé, alerté par des choses que vous avez mentionnées au départ, à savoir les chiffres, les indicateurs de croissance, de santé, toute la métaphore au fond organique, corporelle, qui au fond rattache ces phénomènes de consommation en termes quantitatifs pour arriver à une opération d'une alchimie assez fascinante et rare qui consiste à traduire au fond des quantités de consommation en une forme de qualité de vie. Et ce qui est au fond mis catégoriquement à la marge, c'est effectivement tous les phénomènes.
C'est un peu comme ça, en tout cas, qu'aujourd'hui elles sont données et qu'elles sont lues, ces statistiques.
Elles sont effectivement les indicateurs. Les indicateurs ont une signification économique, évidemment, et quantitative, qui établit des corrélations de façon absolument systématique et rarement, ou voire jamais, interrogée. Entre, au fond, un degré élevé de consommation qui traduirait au fond, un épanouissement, un bien-être, et ou à l'inverse, une baisse, comme on dit, comme les experts disent, du moral des ménages, à travers, au contraire, la chute de la consommation.
Est-ce qu'à travers la crise économique que nous vivons, cette notion de bien-être, elle n'a pas tendance un peu à s'effacer pour laisser la place à une autre forme d'injonction qui ne viendrait pas, celle-là, du côté du consommateur, mais de la du côté de ceux qui s'adressent aux consommateurs, à savoir, si vous ne consommez pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas de bons citoyens. Parce que consommer, c'est aussi créer de l'activité, donc c'est donner de l'emploi, donc c'est faire réduire le chômage, Denis Robert Dufour. Est-ce qu'il y a cette injonction-là aujourd'hui ?
Je crois qu'il y a cette injonction, mais il y a aussi une autre injonction qui fonctionne, Dieu merci, c'est donc l'essai d'introduction de modèles de consommation, disons, plus intelligents, et qui traduisent bien qu'il y a un problème dans la consommation littérale, hein, dans la consommation pour consommer.
Est-ce que les consommateurs seraient devenus plus intelligents ?
On peut l'espérer, mais ce n'est pas sûr. Mais on peut toujours l'espérer, parce que je crois que, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une souffrance, et que cette souffrance est créée par une obsolescence de ce qu'on consomme, qui fait que le produit, dès qu'il est acheté, demande et consommé au sens consumé, et qu'il faut le remplacer par d'autres produits, qu'on est lancé dans une course qui est une course sans fin, qui commence à montrer ses limites, notamment quand il est lié donc à tout l'appareil productif qui soutient cette course sans fin.
Olivier Soli.
Moi, je suis ennuyé par l'expression de consommateur intelligent ou plus intelligent ou plus vigilant, précisément parce qu'elle consiste, et de manière récurrente, et on pourrait sans doute le voir avec l'histoire elle-même de la consommation, à, au fond, parler pour ce destinataire qu'on appelle consommateur, toujours en son nom, essentiellement à travers la voix des experts, du marketing, en tout cas de médiation, qui, au fond, traite cet individu ou ce sujet ou ce substrat, au fond, comme on parlerait d'un enfant. C'est-à-dire comme celui qui n'a pas de voix et pour lequel on parle. Et je me permettrais de faire une référence à une chose, c'est la manière dont, chroniquement, au fond, et surtout ces dernières années, on s'est attelé à mettre en évidence, effectivement, un consommateur intelligent et des formes de consommation qui seraient devenues, au fond, sensées, alors même qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Ce qui constitue un curieux désaveu, au fond, de l'histoire de la consommation qui aurait été, pour le dire vite, abrutissante et qui aujourd'hui serait éclairé.
Alors on verra justement dans la suite de l'émission si ces nouvelles formes de consommation participent d'une critique de la société de consommation ou au contraire alimentent d'une autre manière cette société. Mais puisque nous avons un expert en marketing en la personne de Benoît Lambrun, je ne sais pas si vous portez ce discours du consommateur intelligent. Est-ce qu'en tout cas on peut dire qu'aujourd'hui on a peut-être un consommateur qui est moins insouciant qu'il ne l'était autrefois?
Le consommateur, ce n'est qu'un construit de la science économique. Ce qui existe, c'est des individus de chair, avec des passions, des souffrances, etc.
Mais le marketeur ou le publicitaire, il s'adresse bien à un individu qui est censé représenter le consommateur.
Il va cartographier, substantialiser. Moi, je pense qu'il y a une acculturation des individus à la culture de consommation, parce qu'on sait peut-être aujourd'hui mieux qu'avant décoder des publicités ou lire un packaging. Mais n'oublions pas que les marques ont toujours deux coups d'avance, parce que les marques savent exactement ce qu'on pense. Donc elles sont capables d'agir en conséquence. Mais donc l'histoire de la consommation, c'est également l'histoire de l'infantilisation de l'individu. Ça, c'est extrêmement clair. Et deuxième point, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, il me semble que la société de consommation s'est construite sur une équation qui est en gros consommer égale posséder égale être heureux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de remettre en cause cette équation et qu'on a transformé finalement un projet collectif qui est le bonheur et qui est inscrit dans la constitution de plusieurs pays, et qui est notamment lié aux États-Unis, à la liberté, donc au choix dont je parlais tout à l'heure, à un projet de société fondé sur le bien-être, d'où notamment l'évolution des indicateurs économiques du PIB vers des mesures de bien-être subjectif. Et ça, je pense que c'est problématique, parce que le bien-être, c'est d'abord quelque chose qui est lié au confort, et le confort est un élément essentiel de l'histoire de la consommation, parce que l'histoire de la consommation, c'est la possibilité de donner à tous un confort matériel. Et donc, c'est un projet politique, finalement, qui articule la société de consommation. Et aujourd'hui, ce confort, il va se matérialiser par une demande de bien-être psychologique et matériel, qui est problématique parce que je pense qu'on ne construit pas un projet de société sur le bien-être et sur le confort.
Alors, est-ce que la société de bien-être et cette façon de faire que peut avoir la société de consommation de rassurer peut-être le consommateur, ça passe aussi par une forme de déculpabilisation? Eh bien, c'est le petit exercice auquel nous allons nous livrer. Vous nous parliez de décryptage d'une publicité. Il y en a une qui nous a interpellé, comme on dit, qui est signée d'une marque de surgelé, Findus pour ne pas la nommer, qui a peut-être des choses à se reprocher après avoir été impliquée, malgré elle, paraît-il, dans l'affaire, la fameuse affaire des lasagnes à la viande de cheval, et qui vient de sortir. Mélanie Chalandon, bonsoir.
Bonsoir.
Une campagne qui joue sur la fibre patriotique, le fameux Made in France.
Alors c'est une affiche qui aura peut-être retenu votre attention ces derniers jours. On y voit la photo assez simple d'un homme en gros plan, la quarantaine. Cet homme c'est Benoît, il est commercial à Tours. Et dans ses bras tendus vers nous, une boîte de poisson pané. Il nous regarde droit dans les yeux, léger sourire, mais l'air grave tout de même. Et au-dessus de lui ce slogan, préférez une boîte qui maintient l'emploi en France. Alors, en quoi l'argument du Made in France peut nous donner envie d'acheter le produit davantage que la promesse d'un plaisir gustatif? C'est la question que nous avons posée à Jean-Marc Sfer. Il est analyste de la publicité et animateur du blog vivelapub.fr.
Cette tendance Made in France s'inscrit parfaitement dans la tendance plus globale éco-responsable. Les distances sont plus courtes, donc il y a moins de pollution, donc on peut ressortir l'argument écologique. Ensuite, bien sûr, il y a l'argument crise. On voit que le pays est dans la crise et on se dit « je vais aider mon pays, donc j'achète français ». Et je vais peut-être être un petit peu plus original, mais je pense aussi que cette déprime économique peut être comparée en quelque sorte avec une déprime humaine. Lorsqu'on est un petit peu déprimé, on a tendance à se refermer dans sa propre bulle et en quelque sorte se réfugier un peu dans la nostalgie de son enfance. Où la France faisait des produits, de la nourriture qui avait un meilleur goût. On dit parfois que les produits avaient une âme, ils étaient plus costauds, ils pouvaient durer plusieurs générations. Et ce que je vois, c'est que le Made in France, peut-être de façon inconsciente, se refuse nostalgique pour notre industrie d'antan avec toutes ces valeurs qu'on a perdues au cours des dernières années.
Bon alors, Dany et Robert Dufour, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous avez sous les yeux donc cette fameuse publicité qui dit en gros, si vous mangez du poisson pané français, vous allez contribuer à maintenir l'emploi en France?
Oui, je crois que ça traduit bien la capacité de la publicité à jouer sur tout ce qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, donc, comme il y a un certain nombre de problèmes dont on parle en France, ça joue sur ce problème et sur le maintien de l'emploi et du tissu industriel en France. Il y a quelque temps, ça jouait sur, par exemple, l'illusion de liberté avec le nomadisme. Soyez nomade, promenez-vous partout avec des produits nomades, etc.
Sauf que là, il y a quelque chose en plus, il me semble. C'est d'ailleurs, on culpabilise aussi le consommateur. D'habitude, on essaie peut-être de le flatter, de lui faire plaisir. Là, on le met dans une situation de responsabilité, en gros.
Oui, mais...
Si vous ne mangez pas de notre poisson... Et eh ben vous allez créer du chômage, quoi. C'est aussi ça que ça veut dire.
Oui, oui, mais je crois que ça fait partie de cette, la culpabilisation fait partie de l'utilisation des problèmes de l'ère du temps pour forcer donc à la consommation, et ça peut être des fois différents problèmes. Par exemple, c'est aussi une culpabilisation de dire si vous n'êtes pas nomade, vous êtes rétro, vous êtes ancien, vous êtes dépassé, vous n'êtes plus dans le coup, vous êtes ringard, etc. Si vous n'êtes pas dans la réalisation personnelle, dans le do it yourself, par exemple, c'était encore une autre modalité. Vous êtes complètement dépassé, vous n'êtes plus dans le coup. Donc je crois que ça joue toujours sur des questions de culpabilisation, et donc c'est une contrainte, ça fonctionne comme une contrainte qui est exercée à l'endroit du consommateur.
C'est aussi peut-être comme ça, alors du coup, qu'on arrive à masquer cette critique de la société de consommation en culpabilisant. Benoît Brun.
Alors deux points. D'abord, je pense que dans cette publicité, on est au cœur de la misère symbolique, c'est-à-dire qu'on utilise, et ça c'est un coup, c'est le tour de passe-passe des marques, c'est finalement de toujours utiliser de la communication périphérique. C'est-à-dire, je ne parle pas du produit, on ne dit pas que c'est un bon produit, on va utiliser d'autres leviers. Et on voit que sur le packaging, on va utiliser un personnage, qu'on va utiliser un logo, que ça ne suffit pas. Donc, on va utiliser finalement une injonction parce que, encore une fois, on est à l'impératif. Hein. Donc, la société de consommation, c'est une société qui est impérative. Deuxième chose pour répondre à votre question, la société de consommation ne fonctionne qu'à partir où il y a une dramaturgie de la consommation. N'oublions jamais que la société de consommation, c'est une société dans laquelle on achète des choses dont on n'a pas besoin, dont on a envie. Et pour qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait un drame, une dramaturgie. Et pour dramatiser le problème, rien de mieux que de culpabiliser la personne ou de faire advenir ce qu'on appelle en marketing du risque perçu. Et justement, l'objectif des marques, c'est de réduire le risque et donc c'est de proposer une société qui propose un confort psychologique.
Olivier Soulier, elle peut fonctionner sur vous cette pub? Ça vous donne envie d'acheter du surgelé français?
Absolument pas.
Peut-être parce que vous n'aimez pas le surgelé.
Non, alors hormis les ruses dont mes deux camarades ont parfaitement décrypté les tenants et les aboutissants, j'ai aussi le sentiment que cette publicité, comme beaucoup de publicités, c'est un excellent reflet au fond du projet politique ou de l'absence de projet politique dans lequel on se trouve. Qui fait écho à la situation au fond à ce qui est proposé aux individus, qui est des variantes en termes de consommation et cette idée que avec des équations très simplistes, à savoir une production française serait systématiquement synonyme de qualité, etc. Mais ça en dit autant, je pense, sur l'absence de projet politique que ensuite sur des stratégies commerciales qui sont relativement triviales, au fond.
Alors, Mélanie Chalandon, qui est restée avec nous pour la suite de l'émission, a une question à vous poser.
Alors, dans la suite de cette publicité, c'est vrai qu'on s'est demandé si il s'agissait d'une mode, c'est-à-dire d'une tendance à surfer sur un thème du moment qui est le Made in France. Mais est-ce que ça ne peut pas être plus que ça, c'est-à-dire au-delà de la mode, est-ce qu'il n'y a pas une certaine nouvelle manière de faire de la publicité? Et je crois que Benoît Brun, vous en parlez, vous parlez d'une société post-publicitaire, est-ce que ça participe pas de ça? C'est-à-dire on va sur le terrain politique, on va sur le terrain médiatique, c'est les thèmes du moment. Ça pourrait être un slogan d'un homme en campagne, donc est-ce que c'est pas aussi le reflet d'une tendance de fond de la société peut-être post-publicitaire, comme vous dites?
Mais une société post-publicitaire, c'est une société dans laquelle les marques s'adressent aux individus avec autre chose que de la publicité. Il faut savoir que la publicité aujourd'hui, ça représente à peu près 30% des dépenses de communication marketing. Donc c'est très peu. Donc le packaging, le street marketing, la promotion, tout ça, ça fait partie d'un dispositif post-publicitaire.
Parce que les gens ne se font plus avoir comme ils se faisaient avoir autrefois ?
Non, parce qu'on est passé d'une société des médias à une société de l'immédiat. Et l'immédiat, ça passe donc par le hors-média, hein, par définition. Mais je veux dire, dans les années 80, on nous serinait déjà avec acheter français quand on achetait son véhicule. Donc ça, c'est absolument pas un argument nouveau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le Made in in France ne veut pas dire grand-chose, hein, puisqu'il suffit qu'une opération ait été faite en France pour que le produit... C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans le made in France la question du partage de la valeur ajoutée. Et ça, c'est un vrai problème. Effectivement, les politiques qui ne s'intéressent de toute façon pas à la consommation, parce qu'à mon avis, déjà, ils ne vont pas dans les magasins, donc ils ne comprennent pas ce qui se passe, ne posent absolument pas la question en termes de partage de la valeur ajoutée et d'affichage du processus de création de valeur ajoutée, qui est, à mon avis, une question absolument fondamentale.
Vous trouvez que les politiques ne s'intéressent pas du tout à la société de consommation?
Absolument pas.
Vous ne trouvez pas au contraire qu'il y a une injonction permanente dans toute la classe politique?
Non, mais on dit la consommation. Mais qu'est-ce que c'est la consommation? La consommation, c'est réfléchir sur des relations entre trois types d'acteurs, c'est-à-dire des fabricants, des distributeurs et des consommateurs. Aujourd'hui, on est dans la glorification ou la victimisation de la figure du consommateur. Mais ce n'est pas avec ça qu'on va construire un projet commun.
Alors, il y a d'autres formes de consommation qui se veulent aussi responsables, la consommation durable, la consommation équitable, l'a dit Robert Dufour. Est-ce que vous y voyez une forme détournée, alors qui ne serait plus celle qui était portée notamment par mai 68, il n'y a pas uniquement mai 68, mais c'est vrai que c'est là qu'on s'en souvient le plus, parce qu'il y avait des slogans assez marquants, mais est-ce que vous y voyez une nouvelle forme, qui serait peut-être une approche plus pragmatique, ou est-ce que vous y voyez une façon pour la société de consommation de se maintenir malgré tout? C'est-à-dire consommer durable, c'est quand même de la consommation.
J'y vois une très grande ambiguïté, parce que je crois que ces deux aspects sont présents. En même temps. Il ne faut pas oublier quand même que le marché, c'est ce qui promet, c'est une promesse, c'est pour ça que j'ai appelé, ça fonctionne comme une religion, c'est une promesse de satisfaction. Promesse de satisfaction de toutes les appétences. Demandez ce que vous voulez, désirez ce que vous voulez, nous allons vous le donner. Alors, en plus de ceci, comme cet aspect peut être paraître un peu égoïste, on peut déculpabiliser tout en tenant le même discours, en disant « oui, mais c'est français ». Donc vous allez faire en même temps que vous vous satisfaisez vous-même, vous allez faire une bonne action. Hein, vous allez faire une bonne action pour votre pays, pour la France.
Et ça n'est pas une bonne action? Ou alors, sortons du Made in France, mais par exemple dire « achetez plutôt du café équitable parce que les producteurs locaux sont mieux payés ».
Oui, je crois que c'est la même chose. Oui. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez satisfaire
mais
vos appétences.
Mais ça n'est pas qu'une bonne action, c'est ce que vous voulez dire?
Ah, ce n'est pas qu'une bonne action, c'est quand même, il reste derrière tout ça la satisfaction de toutes les appétences. C'est-à-dire que nous allons pouvoir vous donner tout ce que vous voulez, n'importe quel produit manufacturé, n'importe quel service marchand, n'importe quel fantasme produit par les industries culturelles, demandez-le, nous pouvons vous le donner. Si ça vous pose des problèmes, il y a des registres, par exemple le commerce équitable, etc., qui vous permettront de rentrer dans une norme qui est moralement acceptable pour vous.
Olivier Assouline.
Il y a un point important, c'est que au fond, on parle évidemment beaucoup de consommation. Quelle que soit la consommation, qu'elle soit rattachée à du développement durable, des produits d'origine biologique ou d'autres alternatifs, qu'importe, ça ne remet pas fondamentalement en question une structure qui est une structure, on va dire, binaire ou duelle, entre d'un côté de la consommation et de l'autre en amont de la production, au fond. C'est-à-dire que c'est cette structure qui est problématique. C'est pas tant ensuite ce qui est consommé ou ce qui l'est pas, c'est que cette structure, de toute façon, elle est prescriptrice. Et elle passe essentiellement par ce que vous nous avez soumis, c'est-à-dire une publicité. C'est-à-dire que sans ce lien de médiation qui consiste effectivement à rendre la chose désirable ou consommable, le scénario, le schéma s'effondre.
Enfin, les problématiques, en même temps, cette problématique-là, elle n'existe pas du tout dans le débat public aujourd'hui.
Non, elle n'existe pas dans le débat public, mais il faudrait, je pense que ce qui met en perspective la consommation aujourd'hui, c'est effectivement non pas les formes alternatives de consommation, mais les formes alternatives à la consommation, c'est-à-dire en gros des pratiques amateurs, des pratiques où les individus reprennent en main certains instruments de production et annulent au fond le dualisme entre consommation et production. Hein, si vous prenez le cas qui est très emblématique, qui provient des États-Unis sur les questions liées aux logiciels libres, vous aviez des communautés d'amateurs qui abolissent au fond la frontière en coproduisant. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, au fond, que vous achetiez un produit sain ou malsain ou banal ou original, vous ne remettez pas en cause la structure, on va dire, historico-socio-économique de la consommation. Et c'est ça qui est à mettre en question aujourd'hui.
Daniel Berdefort.
Oui, je crois que ce que vous dites est extrêmement important, donc qu'il s'agit de trouver des alternatives à la consommation. Parce que dès lors qu'on est comblé par l'objet, il n'y a plus de manifestation du désir. Le désir est comblé, disons, la jouissance directe du consommateur est comblée par l'objet. Le désir commence à se constituer à partir justement où l'objet manque. Il manque, et donc il faut faire un détour, construire quelque chose par soi-même, construire non pas consommer un objet manufacturé, mais produire son objet qu'on doit construire soi-même, pour justement s'engager dans une démarche qui est une démarche désirante par rapport à une démarche qui est une démarche jouissante.
Je vous suis tout à fait. Ça suppose une chose, notamment un indice qui reconnaît cette alternative à la consommation, c'est non pas la mise sur le marché de produits, mais des objets qui sont, au fond, éternellement perfectibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont
c'est
pas
ça.
Achevés.
C'est ça.
Or, le schéma qui consiste à achever les produits, c'est par exemple dans l'informatique le schéma des droits de propriété industrielle qui fait que les logiciels se succèdent et permettent de maintenir le marché en éveil.
Benoît Lebras, est-ce que vous y croyez, vous, à ces alternatives à la consommation? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut sortir de la consommation?
Non, je pense qu'on ne peut pas sortir de la consommation, mais je souscris tout à fait au point de vue qui vient d'être développé. Je pense qu'il y a une mutation fondamentale de la société de consommation qui consiste en un déplacement des frontières, et notamment la frontière entre la production et la consommation. Mais sachant qu'attention, je suis tout à fait sensible aux thèses sur l'amateur, d'ailleurs nous avons écrit un livre ensemble à ce sujet, mais il ne faut pas oublier que le capitalisme a une tendance à récupérer des phénomènes alternatifs, comme par exemple mai 68 a été récupéré par Leclerc pour comme slogan publicitaire. Et donc il y a les Américains ont forgé.
C'est-à-dire que même les alternatives à la consommation, ça aussi ça pourrait.
Mais
finalement
bien sûr,
être récupéré.
Et c'est ça, je pense, c'est la chose à laquelle il faut être extrêmement vigilant. Les Américains ont forgé la notion de prosumeur pour montrer qu'on était à la fois producteur et consommateur de son expérience de consommation. À partir du moment où on consomme aujourd'hui, pas seulement des produits, mais aussi des expériences, des idées, des émotions. Parce que nous sommes, n'oublions pas, dans un capitalisme émotionnel. Donc, en fait, il y a une mutation. Et je pense qu'effectivement, la consommation dite collaborative opère une mutation. Mais cette mutation, elle est en partie récupérée par le système capitaliste. Donc, on a du mal à sortir quand même de la consommation.
Mélanie.
Donc, si on vous comprend bien, les critiques à la consommation qui prennent comme argument, par exemple, l'environnement ou alors le social, etc., ce ne sont pas des vraies critiques à la consommation. Est-ce que ça veut dire que la véritable critique à la société de consommation, elle est davantage d'ordre moral, voire philosophique? Vous l'évoquiez, Dany Robert Dufour. C'est-à-dire, voilà, se poser la question des limites de l'humain, des limites de nos capacités à ingurgiter, à consommer, ingurgiter, des limites de notre corps, etc. Est-ce que la vraie critique à la société de consommation, elle est plutôt dans l'introspection, en fait, finalement, dans la morale, la philosophie, voire la religion?
Alors, vous allez répondre tous les trois. Dany Robert Dufour, d'abord.
Oui, effectivement, on peut se donner un certain nombre de conduites morales, tout simplement parce que quand on connaît la structure du désir, c'est la structure du désir fonctionne comme un panier sans fond, un panier percé qu'il faut remplir de façon permanente. Donc la consommation vient se glisser à l'endroit de cette satisfaction-là. Bon, il y a des alternatives à ceci, puisqu'on peut cesser de remplir sans fin le panier sans fond,
ou la
cruche percée, et essayer de passer à autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, ce sont des alternatives personnelles. Ce n'est pas une alternative politique, c'est une alternative morale, personnelle, de se dire je cesse ou je diminue ma consommation et j'essaie de me débrouiller autrement dans cette société dans laquelle je suis obligé de vivre. Mais pour l'instant, ce n'est pas un projet politique, c'est ça le problème.
Donc on s'est déplacé sur le terrain de la morale. Benoît Lebrun.
Attention, comme l'a montré Jean-Claude Michéa dans un ouvrage qui s'appelle L'Empire du moindre mal, le marché est fondamentalement amoral. Donc il n'y a pas de morale dans le marché, il n'y a pas de morale dans les marques. Alors on pouvait évidemment envisager de l'éthique, c'est-à-dire une façon de se comporter, de défendre des convictions, ce qui, à mon avis, est différent de la morale. Mais non, le marché n'est pas moral. On parle souvent de développement durable. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui était capable de m'expliquer ce que signifie le développement durable. Si on raisonne non pas en termes de valeur ajoutée du produit, mais de valeur étendue, je ne suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui capable de dire que tel objet est plus favorable à l'environnement que tel autre. Parce que les modèles de mesure sont extrêmement complexes et je ne sais pas si aujourd'hui on est en mesure d'évaluer finalement les dégâts causés par la surconsommation, la surproduction.
Olivier Assouline.
Moi, je suis très dubitatif sur toutes les hypothèses qui consistent à penser la consommation sous une forme, on va dire, modérée à travers ce qu'on appellerait la déconsommation. Parce qu'au fond, on est exactement...
Donc c'est quoi la déconsommation? C'est quoi? C'est la sobriété?
Voilà, c'est la sobriété, c'est la sobriété heureuse. Vous voyez, tous ces modèles qui ont une résonance, à mon sens, extrêmement morale, parfois moralisatrice, qui est très problématique. Pourquoi? Parce qu'elle suppose quand même d'établir quelque chose qui fait question, qui est cette barrière, cette ligne de partage entre quelque chose comme des besoins et des désirs. Or, cette ligne de partage, on pourrait dire qu'anthropologiquement, elle est extrêmement fluctuante et imperméable. Donc,
Sauf si chacun individuellement se fixe ses barrières.
Oui.
Si ça n'est pas quelque chose qui est imposé.
Oui, oui. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de. C'est ni plus un objet, on va dire, économique au sens classique, ni plus un objet politique. C'est-à-dire, c'est un objet laissé à l'appréciation. Mais en général, voilà, les questions de consommation, elles se posent aujourd'hui dans des cadres. Qui sont des cadres globaux, politiques, économiques, qui demandent précisément, qui nous interpellent sur la possibilité d'avoir une prise sur ces questions.
Daniel Robert Dufour, sur la sobriété heureuse.
Je ne sais pas si on peut y arriver, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes en ce moment dans l'excès, dans le sans-limite de la consommation, dans le sans-limite...
Donc on est dans l'excès malheureux et pas dans la sobriété heureuse.
Dans l'excès malheureux, exactement. Et je pense que la solution viendra malheureusement quand ce système commencera à montrer qu'il ne peut plus marcher de cette façon-là, parce qu'il entre en contradiction, cette production infinie entre en contradiction avec un certain nombre de ressources qui sont par définition finies. Donc ce n'est pas la morale qui viendra atténuer tout ceci ou transformer tout cela. C'est une contradiction interne au système. Et je pense que déjà, il y a des manifestations de cette contradiction interne au système qui commencent à apparaître de façon assez claire maintenant.
Par exemple ?
La consommation infinie et l'exploitation infinie des ressources sur Terre, par exemple, commencent à créer des problèmes justement dans les grands équilibres qui régissent les bases de la vie sur Terre.
Et vous savez bien qu'on va trouver d'autres ressources qui, elles, seront davantage renouvelables et que ça ne va pas forcément...
On n'y est pas pour l'instant.
On sait qu'il y a une mutation parce qu'une étude est parue en décembre en Angleterre montrant que la production de matière brute, pour la première fois, a commencé à baisser en 2013. Pour la première fois dans l'histoire. Donc là, il se passe quelque chose. Mais moi, je voudrais dire comme une chose, c'est que le point aveugle de la consommation, c'est l'amour, en fait. Une société qui surconsomme, c'est une société qui se pose la question des relations humaines. Qu'est-ce que c'est consommer? C'est entretenir des relations, certes avec des objets, avec des expériences, mais surtout avec des personnes. Et moi, je pense qu'il y a une mutation de la société de consommation, en ce sens que la société de consommation s'est construite sur un type d'amour qui est l'éros. C'est-à-dire que les marques vont jouer sur une captation érotique, parce qu'il faut capter l'attention, l'énergie psychique, le désir, etc. Donc on est dans le modèle de ce que les Grecs appelaient l'éros. Et je pense que la consommation dite collaborative fonctionne sur un autre modèle, qui est le modèle de la philia, c'est-à-dire celui de l'amitié. Et que donc, on peut repenser une société de consommation sur un projet d'amicalité entre les individus. Et donc la consommation aurait finalement un rôle de catalyseur très important.
Vous pensez vraiment que ça, c'est la voie d'avenir? Moi, j'avais été frappé il y a quelque temps quand j'avais vu... Alors, je reviens à des publicités où une marque de soda, Coca-Cola pour ne pas la nommer, propose par exemple d'avoir sa propre bouteille avec son propre prénom dessus. Est quand même toujours dans l'éros.
Oui, on est d'accord, mais sauf qu'en France, ils ont imprimé des bouteilles avec 50 prénoms. Donc, il y a plein de gens, par exemple, qui s'appellent Benoît et qui ont acheté leur bouteille avec Benoît. Mais ça, l'un n'empêche pas l'autre. Le problème, c'est de retrouver à la fois une individuation collective, c'est-à-dire consommer ensemble et partager des choses. Donc ça, c'est la dimension communautaire de la consommation, et une individuation singulière, c'est-à-dire montrer la singularité. Et la force des marques, notamment des marques de style de vie, c'est à la fois de proposer de l'individuation singulière en disant « toi, tu es différent », mais en même temps de montrer de l'appartenance, d'où l'émergence des communautés de marques.
Oui, parce que Olivier Assouli, est-ce qu'on peut continuer à être différent et donc à se distinguer des autres si on sort de la société de consommation? Parce que c'est aussi ça qu'elle nous offre. Et si ce soir, par exemple, autour de cette table, on n'est pas tous Je prends le cas des vêtements habillés pareil. Enfin, moi, ça m'aurait peut-être embêté, vous voyez, si on était venus tous avec la même chemise, le même pantalon, les mêmes chaussures.
C'est le cas, non ?
Là, non, pas du tout. Nous avons des styles vestimentaires très, très différents. Mais voilà, est-ce qu'on peut encore se distinguer et ne pas être dans peut-être un projet totalitaire qui serait celui de la sortie de la société de consommation ?
Distinction, c'est un terme complexe puisqu'il suppose au fond la comparaison. Et quand, lorsque Benoît, Elbrun vient de le parler en parlant de différence, moi, ça me pose une difficulté parce que la différence, c'est toujours quand même dans la perspective d'un marché qui est encore capable, au fond, de renouveler, de reproduire des alternatives, de se régénérer, à la différence d'un autre terme qui serait la singularité, c'est-à-dire quelque chose qui serait incomparable. C'est-à-dire qu'au fond, la question de la consommation, quelle qu'elle soit, elle pose la question de la comparabilité. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une structure qui fait qu'on peut la décliner en permanence, la reconjuguer. Et il y a très peu, et Benoît l'a dit très justement, il y a au fond, il n'y a quasiment pas un mot d'ordre hostile à ce qu'on appellerait société de consommation qui ne puisse pas, d'une manière ou d'une autre, rentrer aujourd'hui dans le giron de la société de consommation. Pour preuve, tout le système aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est un catalyseur absolument unique dans l'histoire de l'humanité qui permet de capter, d'enregistrer, de consigner des goûts qui vont ensuite pouvoir être déclinés en production de plus en plus individualisée, personnalisée. Autrement dit, ce que les entreprises devaient faire de manière laborieuse en testant avant des produits de manière artisanale fait l'objet aujourd'hui de réalisations de produits qui permettent de saisir quasiment en temps réel un goût, une préférence à une échelle qui est une échelle absolument incommensurable par rapport à ce qui se faisait avant.
Voilà, donc il y a avec les imprimantes 3D. Alors là, on voilà. Va pousser
donc
ça
à l'extrême. Il y a une possibilité au fond de répondre au plus près des désirs, quasiment en temps réel, qui est évidemment qui donne le vertige au fond. Alors ensuite, la question de la singularité, elle est comment quelque chose se soustrait à ça, mais pas par comparaison.
Mélanie Chalandon.
Vous parlez de vertige. Vous disiez tout à l'heure que la critique de la société de consommation, la vraie critique doit être de l'ordre du projet politique. Mais qui imaginez-vous, quel programme politique, qui pourrait porter un programme politique avec une injonction au contraire, c'est-à-dire allons vers moins de consommation, ou en tout cas fixons des limites, fixons un modèle différent. Qui imaginez-vous porter un tel projet politique ?
Alors, vous peut-être, Olivier Assouline.
Oui, moi directement. Il y a une chose qui est évidente, c'est la conjonction qui s'est révélée ces derniers temps entre des projets, entre guillemets, très convergents de la gauche dite socialiste et de la droite. C'est-à-dire qu'on est le consensus, il est autour de maintenir la consommation coûte que coûte à un certain niveau. De ce point de vue-là, il n'y a absolument plus aucune différence. Et je pense que la limite de des partis politiques, elle se trouve précisément dans des multitudes d'individus qui n'ont pas forcément de voix et de représentation et qui, effectivement, créent, agissent, produisent différemment, mais qui n'ont pas effectivement voix à la représentation.
Daniel Robert Dufour, cette critique de la société de consommation aujourd'hui, elle n'est pas portée politiquement ?
Non, elle n'est pas portée. Elle n'est portée par aucun... Enfin, peut-être par un certain nombre de groupes marginaux alternatifs qui essayent de proposer des modèles de consommation collaborative qui font intervenir non pas la centration sur son propre désir, son propre besoin et toutes ses appétences, mais la relation à l'autre, donc des relations qui mettent effectivement à l'ordre du jour la relation plutôt que la centration sur l'individu. Mais ça existe au niveau d'un souhait, mais ça n'existe pas au niveau d'une force politique. Et je crois que c'est un des grands enjeux de la réflexion politique actuelle, c'est de le faire exister comme force ou comme forme politique.
Benoît Elbrun.
Je souscris tout à fait. Hein. Qui va changer la société de consommation ? C'est nous. Nous proposons des choses, effectivement, pour repenser la consommation. Mais la grande force de la consommation, c'est qu'il n'y a pas d'extranéité. C'est-à-dire qu'on est forcément dans la consommation. Il n'y a pas de dehors de la consommation. Hein. Baudrillard disait dans la société de consommation, elle disait la publicité, mais on pourrait l'appliquer à la consommation, c'est une plante parasite. Hein. Une fois que ça rentre dans un espace, ça n'en sort plus. Et donc, c'est ça le problème. C'est de repenser des outils critiques de la consommation, sachant que...
Il n'y a pas d'extranéité. spontanéité, sauf peut-être ceux qui n'y ont plus accès justement à cette société.
Alors ça, c'est l'un des vrais problèmes qui n'est jamais abordé. C'est les personnes qui vivent avec moins de 800 euros net par mois. Il y a une enquête il y a 15 jours en France qui montrait qu'on demandait aux gens quel est le revenu en dessous duquel on vous estimez qu'on est pauvre. C'était exactement 1400 euros par personne. Donc on voit que là,
ça correspond au seuil de pauvreté. Hein.
Voilà, ça correspond au seuil de pauvreté. Et on voit que c'est la même chose dans d'autres pays européens. Donc là, il y a de vraies questions, et des vraies questions liées notamment à la redistribution de la richesse. Hein. Ah, c'est pour ça que la pensée de la consommation est historiquement plutôt à gauche, parce que la gauche est plutôt, me semble-t-il, dans une logique de redistribution de la richesse.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir apporté quelques réponses à ces nombreuses questions. Dany, Robert Dufour, Benoît Elbrun, Olivier Assouli, vos références bibliographiques sont sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grand Moudre, page sur laquelle vous pourrez également trouver un bonus signé de notre stagiaire Mina Fézy qui a rencontré un des membres de l'église de la très sainte consommation. Ce sont des militants anti-consumérisme qui prennent la chose et qui militent avec beaucoup d'humour. Voilà, je vous conseille d'écouter ce petit reportage. Demain, nous poserons la question suivante. Certains animaux sont-ils plus égaux que d'autres ? Voilà, ce sera à partir de 18h20. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard.